Chapitre 55. Un seul des vidéoscopes fonctionnait encore. Sur l'écran, quatre ombres évoluaient dans un brouillard empoussiéré et obscur. À en juger par les bribes du décor qu'accrochaient les lampes torches, les dégâts étaient plus importants de leur côté. Le sol de la galerie était effondré, le plafond en grande partie écroulé, les parois éventrées vomissaient de la terre en quantité. Un vrai carnage. Les quatre silhouettes indistinctes avancèrent prudemment sur les lambeaux du dallage encore en place. L'image, de très mauvaise qualité, sautait parfois. Je parie qu'ils se demandent s'ils doivent faire sauter le mur et, si oui, combien de kilos ils doivent mettre. En suivant leur déplacement avec attention, nous parvenions à en déduire où se trouvaient les trous dans leur sol. Leurs faisceaux nous permirent de reconnaître l'artificier italien, Merisi, et le fils d'Habermeyer, mais pas les deux autres. L'image eut un sursaut, mais ça ne venait pas des câbles. Nous eûmes juste le temps de voir ce qui restait de la voûte s'effondrer sur eux. Les lampes valsèrent, puis disparurent sous une avalanche de terre et de roches, laissant l'écran noir. Au même instant, la vibration de l'éboulement nous parvint, très lointaine. Il manquait plus que ça. J'ai changé un regard avec Nathan. L'écran restait obscur. Plus rien ne bougeait. Je réagis aussitôt. On file au mur. Si vous voyez quoi que ce soit de suspect, faites sauter la bifurcation sans attendre. Je posai un détonateur sur la table. Isvoran nous apostropha au moment où nous sortions. Et vous? On se débrouillera. La galerie de Serlong était à nouveau saturée de poussière. Nathan et moi remontâmes nos cols dans une piètre tentative pour filtrer l'air, mais cela ne nous empêcha pas de tousser. Nos yeux irrités pleuraient. De nouveaux blocs jonchaient le sol. Nous arrivâmes à la bifurcation en enjambant des langues de terre et des dalles fêlées. Ça ne s'est pas arrangé. Je levai ma torche. Nos charges ont l'air en place. Nous fûmes bientôt contraints de stopper. Plus question d'aller jusqu'au mur, c'était impraticable. La poussière brouillait tout. Nathan pointa sa lampe en direction du mur, mais on avait l'impression d'être dans une mer de poussière. La visibilité était nulle. Une quinte de tout me secoua. « Ils sont à quelques dizaines de mètres, peut-être morts, » supposa Nathan. « Au minimum en train de crever. On ne doit pas les laisser là. » Il éclaira mon visage. « Que veux-tu dire ?» J'hésitai avant de répondre. « Laisse-moi réfléchir. » On n'a pas réellement le choix, fit-il remarquer. À voir. J'avais un embryon d'idée. Nathan demeurait perplexe. La terre continuait à pleurer du plafond. Le faisceau d'une lampe et des bruits de course nous annonçaient l'arrivée de deux hommes venant de nos quartiers. Nathan braqua sa lampe, le maçon et un garde. L'homme roux considéra les dégâts. Le fossé qui existait déjà s'était élargi, engloutissant probablement le madrier posé en travers, et d'autres failles s'étaient ouvertes, nous empêchant d'approcher du mur. En utilisant les cavités naturelles qui sont au-dessous, on pourrait peut-être les sortir de là, avança-t-il, mais nous trahirions le secret de la cité. Nous restâmes silencieux, songeant aux existences en jeu. Ce secret valait-il une vie humaine? Ou même quatre? Tant d'hommes étaient déjà morts pour le préserver. Je continuais à réfléchir à toute vitesse. D'un autre côté, ajouta le maçon, ce n'est peut-être même pas possible. Et puis, ils sont sans doute morts écrasés. Ou peut-être pas. Je me tins un long moment immobile au milieu de mes compagnons. Enfin, je me résolus à prendre la décision la plus difficile de toute mon existence, mais je ne voyais pas d'autre solution. Si ça marchait, cela pouvait tous nous sauver. Les chances étaient infimes, mais je ne me voyais pas ne rien tenter. Résigné, je laissai tomber. Ne vous posez pas de questions insolubles, j'y vais. Je tournai les talons et rebroussai chemin vers la cité. Nathan me rattrapa. « Et tu vas où ?»«
Je vais aller les aider à sauver les leurs. »«
Non mais, t'es complètement malade. »
Je m'arrêtai et le saisis par les épaules.
« Réfléchis. On ne peut pas laisser ces hommes mourir. Je suis peut-être un des seuls à savoir assez bien manier les explosifs pour déblayer les gravats ou les dalles qu'ils ont au-dessus de la tête avant qu'ils ne manquent d'air. Et puis, ça me permettra aussi de savoir exactement ce qu'ils fabriquent dans leur camp. »
Nathan marqua le coup. Il secouait la tête, ne trouvant pas les mots pour m'en empêcher. Le maçon, lui, avait compris que je ne changerais pas d'avis. Il intervint.
C'est probablement un pan de roche entier qui s'est effondré. D'après le bruit et les structures souterraines, je ne vois que cette solution. Si vous parvenez à le soulever ou à le retourner sans les broyer, vous avez une chance.
J'inspirai profondément et pris le chemin du carrefour. Nathan marchait face à moi, à reculons. Il n'avait pas renoncé à me convaincre.
Te rends-tu compte des risques? Et comment vas-tu justifier qu'on soit au courant de l'éboulement alors qu'on n'est pas censé être là?
Je leur dirai qu'on a des sismographes dans la région, des détecteurs. Je trouverai bien.
Et s'ils te kidnappent? S'ils te gardent?
Ça les occupera, mais vous aurez le temps de finir tranquillement.
Et puis pourquoi veux-tu qu'ils me kidnappent? Je viens pour sauver le fils de leur chef. Ils vont me dérouler le tapis rouge. Et s'il est déjà mort?
C'est un risque à courir. Crois-moi, je suis fatigué, mais pas fou. Je veux vous revoir et je veux qu'on réussisse. Mais nous avons aussi le devoir de sauver ces hommes. Si nous les laissons mourir, nous faisons ce que nous leur reprochons à eux. Il n'y a que la vie qui compte.
Nathan continua à me harceler d'arguments, puis de questions. Il n'essayait plus de me faire changer d'avis, mais de comprendre. Je lui répondis mécaniquement, pensant déjà à ce que je devais faire avant de partir.